sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président, cher professeur Delvolvé, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Jean Robert, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, j'allais commencer par ne pas remercier le professeur Delvolvé. Je plaisante, bien sûr. Il a profité d'un instant de faiblesse alors que j'avais une coupe de champagne à la main pour me demander le nom d'un conférencier qui pourrait parler du pouvoir dans le règne animal. Je me suis empressé de dénoncer un petit camarade, Yvon Lemao, grand spécialiste de l'écologie, qui a fini par accepter et qui parlera ici en décembre, si je ne me trompe pas. Mais entraîné par son élan, le professeur Delvolvé m'a demandé une conférence sur le pouvoir et les mathématiques. Je n'ai pas pu ou je n'ai pas su résister. Me voilà donc devant vous, très intimidé de parler dans cette salle pour la première fois. Cette salle a-t-elle déjà écouté des mathématiques ? Je ne sais pas. Je suis d'autant plus intimidé que je ne suis pas dans mes conditions habituelles. Je suis assis, alors que j'aime tant arpenter un tableau noir, de long en large, la craie à la main. Et pour couronner le tout, je suis très loin d'être spécialiste de la théorie des jeux et je m'excuse auprès des experts qui n'apprendront rien, ou presque. Je vais tenter de parler de mathématiques en restant le plus élémentaire possible. J'espère cependant ne pas être trop élémentaire. Tout d'abord, quelques remarques générales. Il faut toujours être très modeste lorsqu'on tente d'utiliser des mathématiques dans les sciences humaines. Parfois, cela peut donner un éclairage intéressant, mais il faut bien dire que c'est souvent un échec. Les sciences humaines sont infiniment plus complexes que les mathématiques. Nous allons discuter ici de quelques jeux qui vont vous sembler enfantins et sans lien réel avec le concret. Un bon concept mathématique doit être capable d'être utilisé dans une multitude de situations différentes. Une clé passe-partout. Une idée qui ne résout qu'un seul problème, spécialisé, n'a pas grand intérêt. Les meilleures mathématiques doivent pouvoir être expliquées dans des cas extrêmement simples, parfois même caricaturaux. C'est pour cette raison que je vais me concentrer sur de petits jeux. La théorie mathématique des jeux essaye de comprendre le comportement d'agents qui interagissent le plus souvent en compétition, la quête du pouvoir. Il peut s'agir par exemple de deux compagnies qui vendent des biens comparables et qui cherchent à conquérir le marché, ou bien de deux frères ennemis du même parti politique qui briguent la même municipalité. Mais les exemples abondent et nous en verrons quelques-uns. La théorie a été développée par von Neumann et Morgenstern et le livre majeur « Theory of Games and Economic Behavior » a été publié par von Neumann en 1944. Comme vous le savez probablement, John von Neumann est l'un des scientifiques les plus importants du XXe siècle. Ses contributions couvrent un champ étonnamment vaste de disciplines, la mathématisation des algèbres de von Neumann, la mathématisation de la mécanique quantique, le développement des tout premiers ordinateurs appliqués à la météorologie. Il a été l'un des membres les plus importants du Manhattan Project, conduisant aux bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. On dit que c'était un enfant prodige et qu'à 6 ans, il pouvait diviser de tête deux nombres de 8 chiffres. On raconte aussi, toujours à 6 ans, que voyant sa mère qui rêvassait, il lui demanda « Maman, qu'est-ce que tu es en train de calculer ?» C'est un génie, même si je n'aime pas ce mot. Plus tard, en 1950, dans un article fondamental, John Nash améliora considérablement la théorie, s'affranchissant des jeux à somme nulle, mais aussi en permettant de considérer des jeux où de multiples agents interviennent. Il recevra le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la théorie des jeux, mais ce ne sont pas ses seules contributions. Il recevra également le prix Abel de mathématiques en 2015 pour ses découvertes sur les équations aux dérivées partielles, conjointement avec Louis Nirenberg, un de nos associés étrangers décédé la semaine dernière. Le lendemain de la cérémonie à Oslo, il décède dans un accident de taxi, le ramenant chez lui à Princeton. Il est assez connu dans le grand public à cause du film « Beautiful Mind », un homme d'exception en français. Depuis cette époque, plus d'une dizaine de prix Nobel d'économie ont été remis à des spécialistes de la théorie des jeux, dont votre confrère Jean Tirole. Une remarque importante. La théorie des jeux discute du comportement d'agents qui prennent des décisions rationnelles. Nous savons tous que les humains ne sont pas toujours rationnels. Et on pourrait se demander si la théorie peut éclairer les jeux entre Staline et Hitler, ou plus récemment entre Trump et Khamenei. Les experts nous expliquent qu'il est utile de comparer les comportements humains avec ce qu'ils seraient s'ils étaient rationnels. Peut-être. Nos deux frères ennemis en compétition pour la municipalité sont-ils rationnels? Mais parfois, les humains sont rationnels. J'ai lu, par exemple, une analyse détaillée du jeu périlleux entre Kennedy et Khrouchtchev en octobre 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Theodore Sorensen, l'un des conseillers de Kennedy, a écrit ceci. « Nous avons discuté de ce que pourraient être les réactions des Soviétiques à chacune de nos décisions possibles, puis quelles pourraient être nos réactions à chacune de ces réactions soviétiques, etc., jusqu'à arriver à la conclusion. » On peut difficilement imaginer une meilleure description de la théorie des jeux. Avait-il lu le livre de von Neumann ? Et puis, il n'y a pas que les humains. Je vous montrerai tout à l'heure que certains lézards se comportent rationnellement, de même que certains footballeurs. Aujourd'hui, à l'heure des transactions financières à haute fréquence, ce sont des ordinateurs qui prennent des décisions, parfois plusieurs centaines de milliers de fois par seconde. Ces ordinateurs sont programmés pour prendre des décisions rationnelles. Jim Simons est l'un des mathématiciens les plus célèbres pour ses contributions en géométrie différentielle dans sa jeunesse, avant de devenir l'un des premiers à utiliser les transactions à haute fréquence. J'ai eu l'occasion de rencontrer ses collaborateurs, une cinquantaine de jeunes loups, tous très rationnels, docteurs en astrophysique, en mathématiques, en psychologie, en linguistique, et j'en passe. Ils m'ont expliqué que depuis une vingtaine d'années, aucune décision d'achat ou de vente dans leur entreprise n'a été prise par un être humain, mais qu'ils travaillent d'arrache-pied à améliorer le programme. On se croirait dans le film Matrix. Il est temps de jouer. Commençons par un jeu que j'aime beaucoup pratiquer avec des enfants du cours préparatoire, d'autant plus que je suis sûr de gagner. Sur une table, il y a, par exemple, 12 jetons. L'enfant peut en retirer 1, 2 ou 3, comme il le souhaite. À mon tour, je peux en retirer 1 ou 2 ou 3, et on continue. Celui qui ramasse le dernier jeton a gagné. C'est très facile. Si l'enfant retire un jeton, j'en retire 3. S'il en retire 2, j'en retire 2. S'il en retire 1, j'en retire 3. Pardon, si j'en retire 3, j'en retire 1. De cette façon, à chaque tour, à nous deux, nous aurons retiré 4 jetons. Il y en avait 12 au départ. Il y en aura 8, puis 4, et là, l'enfant comprendra qu'il a perdu. Bien entendu, le but du jeu n'est pas de battre un enfant au CP, évidemment. Mais c'est l'occasion de lui expliquer le truc et de lui apprendre à compter de 4 en 4. Une généralisation beaucoup plus subtile est appelée le jeu de Nim, ou le jeu de Marienbad. Car il apparaît dans une scène de ce magnifique film d'Alain René, l'année dernière à Marienbad, en 1961, avec Delphine Seyrig. Sur la table, plusieurs tas de cartes. Dans le film, il y a un tas de 7 cartes, un autre de 5, un autre de 3, et enfin un tas qui n'en contient qu'une. Chaque joueur, tour à tour, choisit un tas et prend au moins une carte dans ce tas. Le joueur qui prend la dernière carte a perdu. Le joueur qui propose ce jeu et qui joue en second déclare « Je peux perdre, mais je gagne toujours. » Et en effet, il gagne toujours. Il y a une stratégie gagnante qui permet de gagner à tous les coups. Mais elle est bien plus compliquée que pour le jeu enfantin que je viens de décrire. Elle a été découverte par un mathématicien qui s'appelait Bouton au début du XXe siècle. Je pourrais vous l'expliquer si vous me donniez un peu plus de temps et un tableau noir, mais ça ne vous intéresserait probablement pas. Quoi qu'il en soit, cette stratégie gagnante est facile à programmer sur un ordinateur. Les deux jeux précédents ont un point commun. Ce sont des jeux finis, dont on connaît a priori la longueur maximale. Pour le jeu de Marienbad, par exemple, comme on retire au moins une carte à chaque fois, on sait que le jeu ne peut pas durer plus que 7 plus 5 plus 3 plus 1, 16. Un théorème important énonce que pour chaque jeu fini qui oppose deux joueurs, une et une seule des deux alternatives suivantes est vraie. Soit le premier joueur a une stratégie gagnante, c'est-à-dire qu'il est sûr de gagner s'il suit cette stratégie, quelles que soient les réactions de son adversaire, ou bien c'est le second joueur qui a une stratégie gagnante. Pour le jeu du CP, je vous ai expliqué, la stratégie gagnante, c'est le premier joueur. Et pour le jeu de Marienbad, je vous ai dit, il existe une stratégie gagnante pour le second joueur. La démonstration de ce théorème n'est pas difficile, et je ne vais pas l'expliquer, mais elle est un peu dans l'esprit de Kennedy et Khrouchtchev. Comme le jeu est fini, il existe un nombre fini de parties possibles. On peut les examiner en principe une à une pour voir qui gagne et qui perd. Il n'est pas difficile d'en déduire théoriquement une stratégie pour l'un des deux joueurs, mais pas pour les deux, bien sûr. Ce théorème est bien joli, mais il ne sert à rien. Prenez l'exemple du jeu de Go, qui est bien sûr un jeu fini. Je n'ai pas la moindre idée du nombre de parties possibles. Mais il est certain que ce nombre est colossal, bien supérieur au nombre total de particules élémentaires dans l'univers. Jamais on ne pourra lister toutes les parties de Go. Il est très probable qu'on ne saura jamais lequel des deux, blanc ou noir, a une stratégie gagnante au Go. Même chose pour les échecs, en ajoutant à la possibilité du pat. Les noirs ou les blancs peuvent, s'ils jouent bien, être sûr de gagner ou d'assurer un pat, les noirs, les blancs, les experts pensent que ce sont les blancs, mais je pense qu'on ne le saura jamais. Parfois, on connaît le joueur qui a la stratégie gagnante, mais on ne connaît pas la stratégie. Un bon exemple est le jeu de Hex, pour hexagone. On y joue sur un plateau qui a une forme de losange. Et on dispose de pièces hexagonales, blanches ou noires. Au début de la partie, les pièces blanches remplissent deux côtés opposés du losange et des pièces noires remplissent les deux autres côtés. Tour à tour, les joueurs déposent des pièces de leur couleur sur le plateau. Le gagnant est celui qui réussit à joindre les deux côtés par une chaîne de sa couleur. Pour ce jeu, on peut démontrer que les blancs peuvent gagner. Mais on n'a pas la moindre idée de la stratégie. Les informaticiens ont même démontré qu'il est virtuellement impossible de trouver cette stratégie. Et pourtant, ce jeu est extrêmement populaire. Il y a des clubs, des championnats, et même si on sait que les gens peuvent gagner, en principe, certains joueurs acceptent de jouer avec les Noirs. Il est grand temps de parler de jeu collectif, avec une composante psychologique, et j'ai besoin de vous. Je vous propose de jouer à un jeu. Vous êtes environ 50 dans cette salle. Je vais demander à chacun d'entre vous d'écrire sur une feuille de papier l'un des deux mots suivants. Égoïste ou altruiste. Si vous écrivez... Attendez la règle d'abord. Hein. Si vous écrivez égoïste, je vous promets de vous donner 100 euros. Pour chacun d'entre vous, chacun de ceux qui vont écrire altruiste, je promets de donner 10 euros à tout le monde. Si tout le monde joue altruiste, chacun recevra 50 fois 10 euros, 500 euros. Bien plus que si chacun joue égoïste, où chacun recevra 100 euros. Êtes-vous prêts ? Jouez. Allez-y. Après je vais faire lever la main. Alors. Vous jouez maintenant. Alors maintenant, je vais vous demander quels sont ceux parmi vous qui sont égoïstes. Intéressant. Votre groupe ne se comporte pas comme les groupes habituels auxquels sont confrontés les psychologues. En général, l'égoïsme l'emporte dans ce genre de situation. Peut-être que les académiciens... Comment ? Exactement. Je n'aurais pas dit ça, voilà.
Et combien ?
Et alors, les autres sont altruistes ?
Tous les autres sont altruistes.
Voilà. Donc, très largement majoritaire.
Voilà, très largement majoritaire.
Alors, combien vous
nous... Lorsque les psy... Alors, j'imagine bien que je ne vais pas tenir ma promesse. Hein. Bon. Lorsque les psychologues réalisent ce jeu dans de bonnes conditions, il semble bien que les êtres humains se comportent de manière égoïste. Même si ce comportement évolue lorsqu'on fait ce jeu un grand nombre de fois de manière successive. Quel est le comportement rationnel dans ce cas ? Clairement, il est rationnel de jouer égoïste, messieurs, dames. Car, quels que soient les choix des autres, si vous changez votre vote de égoïste, de altruiste en égoïste, vous êtes sûr de recevoir 100 euros, même si les autres en recevront peut-être moins. Le choix rationnel est l'égoïsme. Un autre exemple, peut-être plus familier encore, est donné par le GPS. Lorsque vous êtes en voiture et que vous cherchez l'itinéraire le plus rapide pour aller d'un point à un autre, vous êtes en compétition avec tous les autres automobilistes. Ces logiciels, comme Waze par exemple, se vantent d'être collaboratifs. Mais ça n'est pas vrai. Le logiciel vous propose le parcours le plus rapide pour vous, étant donné les choix des autres. Il est tout à fait possible que si vous consentiez à prendre un chemin un peu plus long, d'autres automobilistes pourraient gagner du temps. Ou réciproquement, que si quelques automobilistes faisaient de petits efforts, vous pourriez aller beaucoup plus vite. Ces logiciels cherchent la rationalité et non pas le bien commun. C'est le moment de définir le concept clé d'équilibre de Nash. Un jeu, en général, implique un certain nombre d'acteurs, qui peut être grand, comme par exemple le nombre d'automobilistes. Chaque acteur a le choix entre un certain nombre de stratégies, mais il ne peut pas décider de la stratégie des autres. Une fois chaque stratégie choisie, chaque acteur reçoit une récompense ou une pénalité, en euros, en temps de transport, en banane, peu importe. Un ensemble de stratégies est appelé un équilibre de Nash si aucun acteur ne peut améliorer sa récompense en modifiant sa stratégie sans modifier celle des autres, puisque de toute façon, il n'y a pas accès. Dans l'exemple du jeu égoïste-altruiste, puisque l'équilibre de Nash est celui où tout le monde joue égoïste, puisque le simple fait de changer son propre choix altruiste en égoïste fait gagner 90 euros de plus. Nous savons pourtant que si tout le monde vote altruiste, tout le monde recevrait 500 euros. De la même manière, les choix des automobilistes définissent un équilibre de Nash. Chacun fait pour le mieux, pour lui, étant donné ce que font les autres. Revenons à nos frères ennemis qui briguent la même municipalité. Ils savent qu'ils sont tous les deux candidats. Ils savent que s'ils sont candidats tous les deux, ils ne gagneront pas. Ils savent que si l'un des deux est candidat, il a une bonne chance de gagner. Dans l'ordre, chacun préfère, un, être élu, deux, qu'aucun des deux ne soit élu, trois, que son ennemi soit élu, ce qui est le pire. Chacun a deux options, soit être candidat, soit se désister. Le seul équilibre de Nash est celui dans lequel les deux ennemis sont candidats, même si cela conduit à leur défaite. En effet, dans une situation où l'un des deux se désiste, il aurait intérêt à changer de point de vue et à se porter candidat, puisque ça ne pourrait faire qu'améliorer sa situation. C'est en effet ce que l'on constate, puisque aucun des deux ne sait désister. Peut-être ce n'est pas étranger au fait que l'un des deux est un confrère mathématicien, et qui est d'ailleurs un grand admirateur de Nash pour les équations différentielles, je vous rassure. Souvent, il n'y a pas d'équilibre de Nash. L'exemple le plus simple est celui du jeu pierre-ciseaux-papier, bien connu des enfants. Simultanément, les deux joueurs présentent leur main, qui prend la forme d'une pierre, le poing fermé, de ciseaux, l'index et le majeur écartés, ou d'une feuille, la paume écartée, ouverte. La pierre gagne sur les ciseaux, qui gagne sur le papier, qui gagne sur la pierre. Qui gagne sur les ciseaux. Il n'y a pas de marteau. Hein. Non, c'est pierre, ciseaux, papier. Alors, pierre, ciseaux, papier. Si les joueurs présentent la même main, le jeu est nul. Il n'y a aucun équilibre de Nash, bien sûr, puisque si les joueurs présentent, par exemple, pierre, papier, le premier peut changer et a intérêt à prendre ciseaux. C'est pour cette raison que von Neumann a inventé le concept de stratégie mixte, utilisé principalement pour les jeux, comme celui-ci, qui sont répétés un grand nombre de fois. Cette fois, chaque joueur choisit non pas une stratégie, mais plutôt une probabilité pour chaque stratégie. Il choisit encore alors aléatoirement sa stratégie, suivant les probabilités qu'il a choisies. La récompense après le jeu est alors l'espérance du gain après ce jeu aléatoire. Un équilibre de Nash est alors la donnée de stratégie mixte, une pour chaque joueur, de telle sorte qu'aucun joueur ne peut améliorer son espérance en modifiant sa stratégie. Par exemple, pour le jeu pierre-ciseau-papier, si les joueurs choisissent comme probabilité un tiers, un tiers, un tiers, autrement dit, ils jouent au hasard, il est clair qu'ils gagneront une fois sur deux et qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà donc un équilibre de Nash. Un théorème important de Nash, et pas facile du tout, affirme que tout jeu comportant un nombre quelconque de joueurs et un nombre quelconque de stratégies possède un ensemble de stratégies mixtes qui forment un équilibre de Nash. Il est important de dire que ces équilibres peuvent le plus souvent être calculés explicitement, numériquement, Ce théorème n'est pas facile à démontrer et on raconte que von Neumann, plus âgé que Nash, n'a pas apprécié du tout que son jeune collègue le surpasse dans cette démonstration. Voici un exemple tiré du football. Lors d'un tir au but, le gardien et le tireur s'observent. Le gardien doit décider s'il plonge à droite ou à gauche. Et le tireur, de même, doit décider s'il tire à droite ou à gauche. Le tireur est gaucher, et le gardien le sait. Il y a 4 possibilités. 1. Le gardien plonge à droite, et le tireur vise à gauche. La probabilité du but est grande, disons 90%. 2. Le gardien plonge à droite, et le tireur aussi à droite. La probabilité du but est beaucoup plus faible, peut-être 40%. Le gardien plonge à gauche et le tireur aussi à gauche. Probabilité de but plus grande, 50%, car le tireur est gaucher. Gardien plonge à gauche, tireur à droite. La probabilité du but est grande, un peu moins que 90%, disons 80%, car le tireur est gaucher. Une stratégie mixte pour le gardien, c'est la donner d'un nombre, une probabilité, la probabilité qu'il choisit pour plonger à droite, P. Et il plonge à gauche avec la probabilité 1 moins P. Pour le tireur, il choisit une probabilité Q, droite-gauche, 1 moins Q. Si les deux stratégies P et Q sont données, on peut calculer la probabilité de marquer un but en fonction de P et de Q. Disons F de P et de Q. Ce calcul n'est pas difficile, mais il me faudrait un tableau noir. Je vous donne le résultat. F de PQ vaut, j'ai fait hier soir, 0,4 plus 0,8 fois P plus 0,5 fois Q moins 0,8 PQ. Mais peu importe. Alors que serait un équilibre de Nash ? Que serait un équilibre de Nash ? Le gardien veut que cette probabilité soit aussi petite que possible. Et le tireur, qu'elle soit aussi grande que possible. Il faut donc qu'on ne puisse pas diminuer f de PQ en modifiant P sans modifier Q, et qu'on ne puisse pas augmenter f de PQ en modifiant Q sans modifier P. On parle d'un problème de minimax ou de maximine. C'est un bon exercice pour un étudiant de première année que de trouver les valeurs de P et de Q qui répondent à ces questions. J'ai fait le calcul, j'ai trouvé P égale 5 douzièmes, Q égale 3 huitièmes. Voilà donc la réponse rationnelle. Le tireur doit tirer à gauche avec une probabilité de 3 huitièmes et le gardien doit plonger à gauche avec une probabilité de 5 douzièmes. La probabilité de marquer le but est de 113 240e. Il semble que ce genre de calcul donne des résultats compatibles avec ce que font vraiment les joueurs de football. Mais peut-on croire que les footballeurs résolvent ce genre d'équation sur le terrain ? Comment ? Ah, peut-être, voilà. Certainement pas, bien sûr. Il est probable qu'ils se fient à leur expérience, qu'ils les guident par essais et erreurs vers la solution rationnelle. C'est ce genre d'idée qui est à l'origine de la théorie des jeux évolutionniste, développée dans les années 70 par John Maynard Smith. Voici l'exemple le plus simple. Imaginons une espèce animale, par exemple des oiseaux, et que ces oiseaux peuvent avoir deux types de comportements, agressifs ou pacifiques. On parle en général de faucons et de colombes, même si la terminologie est mauvaise, puisqu'il s'agit d'une même espèce avec deux traits différents. Ces oiseaux mangent des graines, et de temps en temps, ils se retrouvent tous les deux face à un petit tas de graines. Si ce sont deux gentilles colombes qui se présentent face aux graines, elles se partagent les graines. Disons qu'elles gagnent un point de vie chacune. Si c'est un faucon et une colombe, la colombe se retire et le faucon mange tout. Disons que le faucon gagne deux points de vie et la colombe n'en gagne aucun. Enfin, si les deux faucons se rencontrent, ils se battent et se blessent. Disons qu'ils perdent chacun un point. Voyons ce qui peut se passer. Partons d'une population qui n'a que des colombes, qui vivent pacifiquement. Imaginons qu'une mutation apporte quelques faucons. La conclusion est claire. Les faucons vont se repaître. Ils ont un avantage évolutif net par rapport aux colombes. Le nombre de faucons va augmenter. À l'inverse, imaginons une population entièrement constituée de faucons qui passent leur temps à se battre et à perdre des points. Que se passe-t-il si quelques colombes arrivent sur le paysage? Elles ne perdent pas de points, elles vont prospérer. Le nombre de colombes va augmenter. Quelle est la conclusion? La conclusion est que la proportion de colombes par rapport aux faucons va finir par se stabiliser. Elle va se stabiliser à l'équilibre de Nash. La conclusion est intéressante puisqu'elle explique que les comportements gentils et méchants, en quelque sorte, se soutiennent l'un l'autre. Je vous laisse la question de savoir si cela s'applique à l'espèce Homo sapiens. Il semble que le collaborateur principal de Maynard, qui s'appelait George Price, qui était profondément religieux, a eu tant de difficultés à concilier ses travaux théoriques et sa foi qu'il a mis fin à ses jours en 1970. Vous savez peut-être que Darwin était très préoccupé par la question de l'altruisme. Comment expliquer, par exemple, que certains singes qui vivent en communauté se mettent à crier pour alerter leurs congénères lorsqu'ils voient arriver un prédateur qui les menace? Après tout, ce comportement altruiste ne présente aucun avantage pour l'individu. Au contraire, puisque le prédateur risque de s'en prendre à ce singe bruyant. Il vaudrait mieux qu'il se cache et qu'il laisse massacrer les autres singes. Darwin voyait cela comme une contradiction interne dans sa propre théorie. Et il en était très perturbé. Mais il faut pardonner, car il ne connaissait pas la génétique. Faut-il en déduire que l'évolution biologique conduit toutes les espèces vers un équilibre de Nash, mêlant les traits biologiques dans certaines proportions, dans un judicieux équilibre optimal? Je vous ai promis de vous parler de lézard. Imaginez une espèce animale qui existe sous trois variantes, que je peux appeler pierre, ciseaux, papier. Une population contient une certaine proportion de ces trois variantes. Lorsque ces variantes interagissent, elles le font avec les règles pierre, ciseaux, papier. Bien sûr, si les proportions sont un tiers, un tiers, un tiers, tout cela est stable, comme nous l'avons vu. Mais si on commence avec des proportions différentes de un tiers, un tiers, un tiers, que va-t-il se passer? On pourrait penser que la situation convergerait vers un équilibre de Nash, mais ça n'est pas ce qui se passe. On observe un comportement cyclique. Les proportions tournent autour des proportions un tiers, un tiers, de manière périodique, sans jamais l'atteindre. C'est ce qui se passe pour une espèce de lézard, appelée lézard à flanc maculé, qui vivent aux États-Unis et au Mexique, dans les broussailles, en altitude. Les mâles existent dans trois variantes, caractérisées par la couleur de leur gorge. Orange, bleu ou jaune. Les lézards à gorge orange sont très agressifs. Ils opèrent sur de larges territoires, environ 100 mètres carrés, et ils ont de très grands harems et fécondent toutes les femelles. Les lézards jaunes ne sont pas agressifs, mais ce sont des tricheurs. En fait, ils ressemblent à des femelles et peuvent facilement tromper un orange qui a fort affaire à surveiller son grand territoire et ses femelles. Les lézards bleus ont de petits territoires et sont monogames. Les tricheurs jaunes ne les trompent pas, car ils surveillent leur unique femelle. Bref, comme vous l'avez compris, ces trois variantes jouent à pierre, ciseaux, papier. Et on observe en effet le comportement cyclique. Les trois variantes sont majoritaires de manière périodique et la période est de 6 ans. John Maynard Smith ne connaissait pas ces lézards quand il a écrit ce livre. Quand on lui en a parlé, il s'est exclamé « Ces lézards ont probablement lu mon livre ». Nous avons vu des convergences vers un équilibre avec les colombes et les faucons. Nous avons vu des comportements cycliques avec les lézards, mais des comportements bien plus complexes sont possibles. On peut, par exemple, envisager deux espèces en interaction, chacune existant en trois variantes. Chacune des espèces est caractérisée par trois pourcentages, et ces pourcentages évoluent de génération en génération. Il se trouve que, dans certains cas, la dynamique n'est ni périodique ni convergente, mais est complètement chaotique, comme le papillon de Lorentz. Quand on observe l'évolution, on voit ce que les spécialistes en système dynamique appellent des attracteurs étranges. Il me semble que l'étude de ces dynamiques d'origine biologique devrait être poursuivie largement. Voilà. Je n'ai fait qu'esquisser une théorie sans entrer dans aucun détail. Il y a bien sûr de nombreux développements techniques qui remplissent de très gros livres. Si on ne cherche pas à lui dire plus que ce qu'elle peut dire, tout particulièrement si on n'oublie pas qu'elle ne peut parler que de comportements rationnels, cette théorie peut jeter un regard intéressant sur des situations de compétition, de lutte de pouvoir et même de collaboration. Ce que je vous ai caché, et je le regrette, ce sont les aspects purement mathématiques qui m'intéressent le plus. Je pense que von Neumann, par exemple, aurait adoré voir les développements de la théorie évolutionniste des jeux. Il vous faudra attendre la fin de l'année pour entendre la présentation de Yvon Lemao sur le pouvoir dans les sociétés animales. Merci beaucoup.